signe, du moins que c'est pas un rêve, sinon ça vire en cauchemar. Elle a l'air si réelle.
Seul ton avis, je suis fou d'elle.
Elle est ma principale, tout n'est pas toujours comme elle me donne la joie de vivre, me donne la joie de vivre. Elle ne cache pas, elle avoue ses sentiments et c'est ça qui m'attire.
Radio de la paix, il est 7h. Le bulletin de 7h, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 7h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le bulletin de ce samedi 3 juin. Réseaux sociaux, les régulateurs de la communication audiovisuelle d'Afrique et d'Europe vont se réunir à partir de la semaine prochaine à Abidjan pour débattre d'une approche commune face aux plateformes numériques. Examen à grand tirage 2023 après l'appel lancé par la ministre de l'Éducation nationale, c'est au tour de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPECI, pour ses examens, invite aussi les élèves et enseignants à plus de responsabilités. En page internationale au Sénégal, des violences ont entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor, et ce, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Décryptage de la situation dans ce bulletin avec un professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Voilà pour l'essentiel. La HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, épouse l'air du temps en recevant à Abidjan les 7 et 8 juillet prochains une rencontre internationale sur le numérique. La HACA, par la voix de son président René Bourgoin, a fait cette annonce à la faveur de la cérémonie de remise de son rapport d'activité 2022 au chef de l'État représenté pour la circonstance par son vice-président. Sur la régulation des médias numériques et l'accès aux médias de service public, le président de la HACA donne des précisions, maître René Bourgoin.
Depuis la loi du 20 décembre 2022, la HACA a vu ses compétences élargies à la régulation de ce que l'on pourrait appeler les réseaux sociaux. Très bientôt, à Abidjan, les 7 et 8 juin, donc la semaine prochaine, nous recevons les régulateurs de la communication audiovisuelle des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Et à ces régulateurs-là de l'espace sous-régional s'ajoutent des régulateurs d'Europe et d'autres régions d'Afrique qui sont attendus à Abidjan pour débattre de ces questions. La thématique, c'est précisément quelle approche commune des régulateurs des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée face aux plateformes numériques.
Le libre accès aux médias d'État notamment, l'équité. Alors là-dessus, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Comment est-ce que vous travaillez?
La HACA, dans ses attributions, garantit l'accès équitable des institutions de la République, partis politiques, des syndicats, des citoyens, la société civile, aux médias de service public.
Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ce libre accès est une réalité?
Bien entendu, le libre accès est une réalité. Nous avons tous les mois un rapport qui est remis à tous les représentants des partis politiques, à tous les présidents de groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale.
René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle HACA, a été joint par Chris Constant Maïlé. La 7e édition de VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux entreprises innovantes et la technologie, se tiendra du 14 au 17 juillet 2023 à Paris, en France, précisément au parc des expositions de la Porte de Versailles. L'État de Côte d'Ivoire va accompagner à cette rencontre officiellement plusieurs start-up ivoiriennes qui ont pion sur rue dans leur domaine d'ici et ailleurs. Matatouré.
Ce sont au total une douzaine de start-up ivoiriennes qui ont fait leurs preuves ici et ailleurs dans les domaines de la télémédecine ou encore des cartes de santé numériques sous forme de bracelets numériques, des drones dans le domaine de l'agriculture ou encore des applications de téléphonie mobile en langue bien de chez nous et qui comptent bien conquérir leur part de marché cette fois avec l'appui de l'État ivoirien. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique.
Au niveau mondial, les fonds qui sont levés pour le financement des start-up sont de plus de 270 000 milliards. Les fonds qui sont dédiés donc aux start-up africaines représentent seulement 1% de ce montant. Notre pays, grâce à cet embryon de start-up qui existe, arrive également à avoir une petite part. C'est un peu plus de 20 milliards seulement que nous avons pu lever.
Du côté du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, on voit là des perspectives pour d'autres jeunes à Mamadou Touré.
Nous visons la formation de 52 310 jeunes dans le domaine donc du numérique. En plus de la mise en place d'incubateurs dans le domaine donc du numérique en faveur donc de notre jeunesse. Nous, au-delà donc du SEM Salon, le développement de ces start-up, en plus donc de l'apport donc, sur le plan d'innovation, permettra aussi donc d'avoir une valeur ajoutée en termes de création d'emplois, surtout pour d'autres jeunes.
La 7e édition de VivaTech, le rendez-vous mondial des startups, se tiendra du 14 au 17 juin à Paris, au Salon Expo, porte de Versailles.
Nous le disions en titre, examen à grand tirage 2023, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Maria Toukoné, a annoncé le mercredi dernier le démarrage des examens scolaires de la session 2023, et ce à partir du lundi 5 juillet prochain. À cette occasion, elle a insisté sur la lutte contre la fraude lors des différentes épreuves, et c'est un message qu'amplifie l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPECI, dont le président Claude Aka Kadio lance ici un appel à la responsabilité des élèves et des enseignants.
Vous savez que la tricherie n'honore pas l'individu même qui triche, ni ses parents, ni la société. Quand vous fraudez, vous êtes un tricheur et la société n'a pas besoin de tricheurs. Donc la fraude, c'est une mauvaise chose qu'un enfant ne doit pas faire. Il faut donc proscrire ça de ses actions. Et nous, en tant que parents d'élèves, nous sommes soucieux de cela. Et depuis près de 3 ans, chaque année, à la veille des examens, nous initions des tournées dans les écoles et nous rencontrons les élèves à qui nous parlons, à qui nous donnons vraiment d'énormes conseils pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de tricher, mais qu'il faut travailler, il faut privilégier le travail. Les enseignants également continuent à la fraude et c'est très grave. Et l'année dernière, justement, il y a eu 331 enseignants qui ont été pris en flagrant délit de faute, de tricherie. Et donc le ministre a sorti un arrêté pour les sanctionner. Donc ces enseignants-là vont écoper de l'ajournement, ils vont perdre leur autorisation d'enseigner et ils vont rester peut-être 5 ans sans pouvoir être convoqués à participer aux examens en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des numéros verts que le ministère a imprimés. Donc, quand ils trichent, il faut les signaler pour qu'ils soient sanctionnés.
Claude Aka Kadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire au PECI, a été joint par Jean-Claude Comé. L'Organisation internationale du travail, OIT, a formé les organisations syndicales sur l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes en faveur de la ratification de la Convention 189 sur le travail des domestiques. Un atelier a eu lieu à cet effet du 31 mai au 2 juillet 2023 à Abidjan. Junior Cardin était à l'ouverture, son compte rendu.
Mesdames et messieurs, quel sort voulons-nous réserver à ces personnes qui passent souvent toute leur vie à nous servir, nous et nos familles respectives? La réponse à cette question dénotera de notre sérieux à faire de nos maisons le cadre du travail décent.
Ce questionnement de Elie Bouga, président de la centrale syndicale Dignité, au nom des travailleurs, résume les attentes de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui offre une protection spécifique aux travailleurs domestiques. Mais pour qu'il en soit ainsi, en Côte d'Ivoire, cette convention, adoptée depuis 2011, doit être ratifiée par les autorités ivoiriennes. D'où cette interpellation de Frédéric Laperle, directeur du bureau pays de l'OIT.
Les organisations syndicales devront convaincre le gouvernement et les parlements de ratifier et de mettre en œuvre la convention et devront aussi, dans ce cadre-là, mener des campagnes d'information et de sensibilisation fondées sur un argumentaire solide. La ratification, ça impose toute une série d'obligations pour le gouvernement avec des rapports réguliers qui doivent donner à l'OIT sur la question de la mise en application du contenu de la convention. convention.
Le dossier de la ratification de la convention 189 est en bonne voie, au dire de Edouard Sibahi, intervenant au nom des employeurs.
La volonté des uns des autres de voir cet instrument ratifié est tout à fait nette. Je suis membre de la commission conciliation du travail sur les normes internationales du travail et cet organe logé au ministère a inscrit cette convention sur la liste des conventions ratifiées par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons même transmis l'instrument au ministère des Affaires étrangères et cela suit son cours.
L'inspecteur général au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Ago Ebenezer, a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIT qui mobilise les énergies dans ce domaine.
Hors des frontières ivoiriennes, trouble au Sénégal avec 9 morts, a indiqué le ministre de l'Intérieur sénégalais Antoine Diom sur la télévision nationale. Ce pays considéré comme un exemple de démocratie offre en ce moment une autre image qui pourrait le desservir. C'est ce qui ressort de l'analyse d'un professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Kwadio Nguesson est joint par Martha Kakou.
Je pense que cette situation ne note pas le Sénégal parce que jusque-là, il a toujours été considéré comme un bel exemple de démocratie et de stabilité politique en Afrique. Très souvent, ce qu'on constate, c'est que ces situations interviennent à la veille des élections générales où, par un jeu de magie, on tente de pouvoir bloquer l'adversaire afin de l'empêcher de se présenter aux élections. Et il n'y a pas que le Sénégal, il y a plusieurs exemples. On a l'impression que ce qui préoccupe ceux qui nous gouvernent, c'est de tout mettre en œuvre pour se maintenir, pour exercer leur pouvoir politique. Mais bien entendu, ces partisans et ces militants ne peuvent être que choqués et tentés de réagir parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'équité de la décision de la justice. Comme le chef de l'État est le chef suprême de la justice, j'espère qu'il pourra faire quelque chose pour éviter que la situation ne s'envenime.
Kwadio Nguesson, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Et puis en Éthiopie, 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées hier vendredi à Addis Abeba, selon les forces de sécurité, lors d'affrontements après la prière musulmane entre la police et des fidèles protestants contre la destruction de mosquées en périphérie de la capitale. Comme nous le disions, des violences ont fait 3 morts et plusieurs blessés, dont 65 policiers, ainsi que de nombreux dégâts. Selon un communiqué publié par un média proche du Parti de la Prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed. Pour rappel, plusieurs mosquées ont été détruites ces derniers mois dans le cadre d'un projet axé autour de la fusion de plusieurs municipalités entraînant la destruction de nombreuses habitations et bâtiments. Fin de ce bulletin. Prochain rendez-vous de la rédaction à 8h. D'ici là, suivez cette entrevue de Junior Cardin qui relate l'histoire de Ferkessé Dougou.